À voix nue, Perrine Kervran s'entretient avec Alain Krivine. Aujourd'hui, quatrième volet de notre série d'entretiens. Hier, nous évoquions la famille des étudiants, ceux de mai 68, cette génération qui a contribué à dessiner le paysage politique et social français. Aujourd'hui, Alain Krivine, c'est une autre famille que nous allons évoquer, une famille plus discrète, mais qui est encore la vôtre, 50 ans après y être entrée, un peu plus même, c'est la famille trotskiste, celle du Parti communiste internationaliste, celle de la 4e internationale, celle de la Ligue communiste, des jeunesses communistes révolutionnaires, celle de la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, et peut-être est-ce encore celle du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Alors pour commencer, je voudrais que vous nous racontiez votre adhésion au trotskisme, alors pas le premier contact que vous avez eu avec cette organisation par l'intermédiaire de votre action en faveur du FLN pendant la guerre d'Algérie, plutôt le moment où vous entrez consciemment dans la mouvance trotskiste, donc au PCI.
Lié à l'activité commune, mais sans le savoir, que j'ai eue avec des militants de la 4e internationale en soutien au FLN, donc après des mois et des mois, ils ont donc réussi à me convaincre. J'ai donc adhéré à la 4e internationale, et à l'époque, ça s'appelait le Parti communiste internationaliste, et c'était tout petit, je sais pas, une centaine d'adhérents, c'est ridicule. Alors des cadres, comme on dit, c'était un parti de cadres, mais tout petit. Et moi, à l'époque, j'étais encore, c'est dans les années 60, hein, j'étais encore aux étudiants communistes et au PC. Donc du coup, j'ai adhéré clandestinement. J'étais donc doublement clandestin par rapport au PC, à la fois pour faire de l'aide au FLN et en même temps pour être trotskiste alors que j'étais dans le PC. C'est vrai que quand vous êtes 120, 130, 140, on a adhéré à plusieurs étudiants communistes à l'époque. Mais c'est très compliqué parce que d'abord, c'est une organisation... Le trotskisme à l'époque et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. À l'époque, c'était vraiment... comme on dit, c'était des organisations de cadres, et dans le monde entier c'était pareil, hein, quelques dizaines, quelques centaines, mais surtout des organisations qui étaient attaquées de toutes parts. Alors je vais être franc, il fallait être drôlement politisé, il fallait être cinglé, hein, pour adhérer là-dedans. Parce que, bon, on ne fait pas la révolution à 150, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'était des gens hyper politisés, ça c'est vrai, parce que tout le monde nous attaquait. La droite trouvait qu'on était des ultra-gauches lamentables, pire que les communistes, aujourd'hui on dirait des terroristes, et puis le PC nous traitait d'hitléro-fascistes. Hein. Donc on était, ils nous cassaient la gueule, parce qu'à l'époque il y avait des bagarres physiques avec le PC. Hein. Donc il y a des camarades qui ont été jetés dans la Loire, dans la Seine, enfin jetés après des distributs de tracts ou pendant. C'était très violent, très très violent. Donc je veux dire, on avait tout ça sur le dos, pour tenir, c'était difficile. Donc une quinzaine d'étudiants, on a donc rejoint la 4e internationale, c'est un vrai blindage politique, hein, que je regrette pas du tout, parce que justement... La force, je crois, de la 4e internationale, c'était pas de théoriser son isolement. Parce que le danger, quand on est tout petit, c'est tout de suite d'être une secte. Et à l'époque, il y avait un grand dirigeant international, un économiste très connu, qui dirigeait la 4e, un Belge, qui dirigeait la 4e internationale, qui s'appelait Ernest Mandel, mais qui était un homme très ouvert. Et il théorisait pas l'isolement, au contraire, c'est lui qui m'a appris ce qu'était une secte. Il m'a dit, tu sais, Alain, une secte, c'est des gens qui théorisent leur isolement et qui prennent plaisir à leur isolement. Et plus ils sont isolés, plus ils pensent qu'ils ont raison. Et c'est vrai, moi, les sectes, j'en ai connu plein. Et c'est ce que je rejette, mais totalement. Au moins, ce que j'ai appris à la 4e internationale, et comme militant du PC, moi, ça m'aidait, c'est au contraire de se dire, faut faire du travail syndical, faut faire du travail associatif, faut rompre l'isolement, faut essayer de trouver des gens. Alors, d'où on allait au PC? Enfin, moi, j'étais déjà, mais c'était dire, ben, on fait de l'entrisme, mais faire de l'entrisme, c'était l'idée, justement, qu'il fallait aller à l'extérieur du trotskisme pour gagner des gens, et que c'était pas les trottis tout seuls qui allaient grandir et avoir la prétention de devenir la seule organisation d'extrême-gauche. Donc, voilà, c'est dans ces conditions que j'ai adhéré à la 4e internationale.
Alors, certains de vos frères étaient aussi trotskistes à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu un rôle de la fratrie, justement, dans cette... dans cette orientation trotskiste?
Ben oui, enfin les deux l'étaient. Ils étaient triplement clandos parce qu'ils étaient clandos par rapport à moi, à leurs propres frères, puisque moi j'étais stalinien. Bon, donc, mais une fois qu'il y a eu tout ce changement, ben c'est en particulier grâce à eux, parce que c'est eux qui m'ont donné le contact. Quand à un moment j'ai demandé à voir ce fameux Pierre Franck, qui était un ancien compagnon de Trotsky, c'était un type qui avait une certaine personnalité, mais enfin que personne ne connaissait en France, il faut être sérieux, parce qu'à l'époque. Bon, et c'est par eux que c'est passé. Je suppose que pour eux, ça a été un ouf de soulagement, parce qu'ils ont dû attendre au moins 10 ans que le petit frérot commence à évoluer.
Et cette politisation en fratrie, comme ça a continué tout au long de votre carrière politique?
Ah non, puis la fratrie, ben après, je veux dire, quand on a adhéré à ce fameux PCI, on devait être 130. Bon, ensuite, il y a eu la JCR. Après, la JCR, avant 68, quelques centaines. Après 68, on s'est retrouvé à 900, près de 1000. Ensuite, il y a eu la création de la Ligue communiste. La Ligue communiste a été dissoute après une action très violente pour empêcher à la Mutualité à Paris un meeting d'extrême droite de style Front National, où il y a eu des dizaines de blessés dans la police. C'est une manif de plusieurs milliers de manifestants qu'on a co-organisé avec d'autres. Donc on a été dissous une deuxième fois. De nouveau, je suis retourné à la santé. Donc, mérite de connaître un peu cette prison. Et je veux dire, mais l'organisation avait grossi, quoi. On s'est retrouvé ensuite à 1000, 1500, 2000. Et puis a commencé une implantation dans le mouvement social, dans le mouvement syndical. Puis ça a changé de nature complètement pour déboucher en fin de compte sur le NPR. Mais je veux dire, ça a quand même, heureusement, c'était plus les 120, les 130 de départ.
Alors, qu'est-ce qui vous attirait au départ, Alain Krivine, dans le trotskisme, outre le rejet du stalinisme, qui était quelque chose de très fort à ce moment-là? Alors, est-ce que c'était des figures, on sait hein, que le Che ou la Commune, c'était des choses qui étaient importantes, qui ont été célébrées par...
Moi, c'était plus terre-à-terre. Ils m'ont gagné par une... J'ai jamais eu la prétention d'être un théoricien. Peut-être plus un activiste, j'en sais rien, mais je veux dire, moi, au départ, vraiment, ce qui m'a gagné, ça a été que le rôle qu'ils ont joué pour aider les Algériens dans leur lutte pour l'indépendance. Puis après, j'ai découvert plein de trucs qui m'ont plu, l'internationalisme, l'ouverture à tous les nouveaux mouvements, au féminisme, etc. Donc je me suis retrouvé bien politiquement là-dedans, en me disant, finalement, ils développent les idées pour lesquelles j'avais adhéré au PC, mais que le PC défend plus. Donc je retrouvais ce qui, pour moi, était un vrai PC, mais en tout petit.
Alors, on évoquait hier Alain Krivine, donc mai 68, et puis on peut évoquer ces mouvements qui sont alors nés de mai 68, mais qui n'ont pas explosé à ce moment-là, les mouvements féministes, les mouvements pour des homosexuels, les mouvements écologistes, ces mouvements qui ont plutôt explosé dans les années 70. On ne peut pas dire à l'époque que le trotskisme, que les mouvements gauchistes étaient particulièrement favorables à ces mouvements de société. Au contraire, il y avait un moralisme militant qui voyait cette contre-culture d'un mauvais œil à l'époque.
C'est un peu plus compliqué. Théoriquement, on était complètement d'accord.
Théoriquement.
Voilà, théoriquement, on trouvait que c'était absolument logique. En pratique, c'était complètement différent, parce qu'on subissait encore... Bon, alors, je sais, par exemple, en ce qui concerne le féminisme, en théorie, on était pour l'égalité, etc., etc. En pratique, c'était pas du tout le cas. Puis c'était les mecs qui dirigeaient l'organisation, les femmes, elles avaient un rôle à peu près identique aux autres organisations. D'où ça a été, pour ne prendre que ce mouvement, ça a été pareil pour l'écologie, l'environnement. Bon, aujourd'hui, c'est complètement intégré. Mais à l'époque, il a fallu que les camarades femmes se battent. Elles ont exigé au départ ce qu'on appelait les réunions non mixtes, qui choquait les mecs, qui disaient « Comment ? Mais on est dans le même parti, hommes et femmes. C'est quoi ces réunions uniquement de femmes, de bonnes femmes ?» disaient certains, qui discutent entre elles, sans nous et tout. Mais les copines ont exigé ça. Et on n'est pas arrivé tout de suite à la parité. Maintenant, c'est une évidence. Hein. Toutes nos directions, c'est absolument paritaire. Mais je veux dire, à l'époque, c'est grâce au combat des copines. Et le combat des copines, il est lié au mouvement, qui lui est pas trotskiste, qui était le mouvement de libération des femmes. Sous tous ses aspects, il y a eu le manifeste sur l'avortement des fameuses salopes, puisqu'elles s'appelaient comme ça, il y a eu le planning, le MLF, il y a plein d'organisations. Pareil au niveau homo, on avait quelques camarades homo, et je me rappelle que le premier homo, c'est un camarade postier qui devait être un grand dirigeant du PC. Il avait fait l'école centrale de Moscou, donc il devait devenir un grand dirigeant, et puis il était homo. Et ils l'ont viré comme un PD, parce que moi j'ai assisté à des meetings du PC qui étaient complètement réac à l'époque, hein, d'un meeting de Jacques Duclos sur le thème « La classe ouvrière, elle est PD ». Puis tout le monde applaudissait, des 8-10 000 personnes au Vélodrome d'hiver applaudissaient. Et ce copain, il avait été viré parce qu'il était PD. Et il nous avait rejoint parce que, théoriquement, nous, on était, ça ne nous posait pas de problème. Mais ce n'est pas vrai qu'en pratique, ça nous posait des problèmes. Bien sûr que ça nous en posait. Et alors, pareil, il a exigé, il y a eu une commission qui s'est créée. Puis nos camarades homosexuels ont créé un front homosexuel révolutionnaire beaucoup plus large, etc. Je veux dire, chaque fois, on a été boosté, bousculé par le mouvement des femmes, par le mouvement des homos, bien plus large que nous, et qui a eu des répercussions positives chez nous.
Oui, parce que c'est vrai qu'on lit souvent des témoignages, notamment des anciens d'Actuel, qui ont pu aussi être des anciens de Rouge, qui était le magazine, enfin le journal trotskiste de l'époque, et qui disaient que c'était, effectivement, que du point de vue de la contre-culture, c'était pas très marrant.
Absolument, mais parce qu'on avait, dans la pratique, et du coup c'était certainement pas que dans la pratique, mais des réactions réactionnaires, je dirais, en quelque sorte. Alors c'est vrai que par exemple, celui qui avait en mai 68, mais on le savait, on l'ignorait, c'était un camarade homo, Kingem, qui dirigeait le... Bon, il est...
Aujourd'hui.
Oui, qui dirigeait le quotidien Aujourd'hui, mais bon... Ça passait comme ça, quoi. C'était pas... Bon, je veux dire, il n'y avait pas l'affirmation qu'on a au contraire aujourd'hui, où j'espère que ça ne pose plus de problème.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi d'un lien que font certaines personnes entre la question du judaïsme et du trotskisme ? Alors peut-être en lien avec l'antisémitisme féroce du stalinisme de l'époque. Est-ce que vous voyez un lien, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt quelque chose qu'on plaque après coup sur...
Il y a un petit lien, plus maintenant, mais à l'époque. Alors, il y a un trotskiste belge qui s'appelait Léon, qui est mort en camp de déportation, qui faisait toute une théorie là-dessus. Pourquoi il y avait tellement de juifs chez les trotskistes ? Et à son époque, c'était vraiment tout petit, hein, pendant la guerre, avant la guerre. Alors, lui, il partait de l'idée qu'il y a eu les expulsions de juifs, qu'on leur a interdit plein de métiers, sauf d'être intellectuels, et que du coup, plein de juifs sont devenus intellectuels. Et puis, du coup, on rejoint plus facilement des petites minorités d'avant-garde, comme les trotskistes, etc. Parce qu'en termes de proportion, en tout cas pour la France, c'est vrai que... Quand on était tout petit, il y avait une proportion de juifs terrible, et notamment à la direction, puisque vous savez, la fameuse blague qui circulait dans toute l'extrême gauche, c'est pourquoi on ne parle pas yiddish au bureau politique de la LCR ? Parce qu'il y a un séfarade Ben Saïd. Bon, c'était ça le truc qui cavalait partout, c'était assez marrant. Et c'est vrai qu'il y avait plein de camarades d'origine juive, dont moi d'ailleurs, à la direction. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas, je veux dire. Mais... Il y a un petit fond de vrai, hein, avec, je veux dire, d'abord tout ce que l'histoire trimballée, la résistance, les camps, le fait d'être minoritaire, le fait d'être opprimé, etc. Je dis pas que ça explique le passage au trotskisme, mais on peut pas l'ignorer totalement, parce qu'en termes de proportion, je veux dire, en tout cas au niveau des directions, il y a beaucoup de militants d'origine et militantes d'origine israélite. Ça, je crois que ça joue un rôle.
Est-ce que vous en parliez à l'époque ? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience à l'époque ?
Comme je viens d'en parler maintenant, on blaguait.
Ouais.
C'était les blagues entre juifs, hein, et qui plus est entre ashkenazes. Parce qu'à l'époque, d'ailleurs, je dois le dire, les ashkenazes étaient majoritaires. Aujourd'hui, ce sont les séfarades qui sont majoritaires. Donc, comme on disait chez nous, des faux juifs. Bon, passons, là, c'est des bêtises. Mais on en parlait en se marrant, quoi. Parce que bon, moi, j'ai jamais été croyant. Hein. Mais moi, je dis toujours que je suis juif uniquement devant un antisémite. Donc voilà, comme beaucoup, mais je suis pas croyant.
Alors en 69, c'est la création de la Ligue communiste, donc suite aux dissolutions de mai 68. Quel était l'objectif ? Quelle était la différence ? Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans cette fondation de 69 par rapport à ce que vous aviez connu jusque-là dans le trotskisme ?
Ben, la JCR n'était pas trotskiste, hein. Il y avait des trotskistes dedans, elle était guévariste, comme on disait, mais les trotskistes, on était très minoritaires, mais on apparaissait comme tel dedans, ça posait aucun problème. Puis quand il y a eu la dissolution, d'une part, on s'est dit, on ne va pas se limiter à une action de jeunesse, il faut maintenant une organisation, parce qu'on a quand même des contacts adultes, y compris un début de contact ouvrier, etc. D'où l'idée de créer la Ligue communiste. Et à ce moment-là, il y a eu un débat, est-ce que la Ligue communiste sera section française ou pas de la 4e internationale ? Il y a eu tout un débat, une grande majorité a dit oui, non, il faut être membre de la 4e internationale. On est un parti adulte maintenant, on ne peut pas comme ça, c'est la seule qui existe et tout. Il y a une minorité d'ailleurs qui nous a quittés, qui était contre. Et même si certains militants, à titre individuel et militante, sont restés. Et je veux dire, c'est comme ça que la Ligue communiste est devenue section française de la 4e internationale. Et puis ensuite, après sa dissolution en 73, ce qui va changer de nom, on va rajouter un R uniquement pour des raisons juridiques. Donc Ligue communiste révolutionnaire sera jusque le NPA, qui lui, on en reparlera, n'est pas membre de la 4e internationale, mais la LCR va l'être.
Alors effectivement, c'est donc ce mouvement qui commence, qui débute. Est-ce que vous avez l'impression que le trotskisme, à ce moment-là, a le vent en poupe? On peut dire que c'est un mouvement qui, alors même s'il ne rassemble pas encore énormément, c'est quand même un mouvement justement en opposition au Parti communiste, un mouvement qui accueille des gens qui sont déçus, des gens qui ont envie d'autre chose.
Non, fondamentalement, oui. Je crois que ça a été un apport, et c'est toujours un apport, mais différencié, je veux dire. Il y a des pays où la 4e internationale, c'est vraiment le modèle de ce que ça a toujours été pendant des années, comme on disait, une ration de cadres, c'est-à-dire quelques dizaines, quelques centaines de gens hyper formés, dont chacun individuellement, souvent, pouvait être dirigeant syndical, dirigeant de grands mouvements, mais le parti lui-même tout petit. Donc on appelait ça, juste titre, ration de cadre. Puis ensuite, quand la Ligue est arrivée, puis dans d'autres pays, quelques organisations semblables, là, il y a eu un début de différenciation, parce que, bon, à 1500, 2000, c'est plus exactement une organisation de cadre, c'est beaucoup plus là. Et la 4e internationale a toujours joué un peu avec ce type d'organisation différente qui est liée à des rythmes différents dans le monde de politisation. Mais en termes d'apport, c'est d'abord l'internationalisme qui a été abandonné, dont il y a des réunions internationales. Et c'est vrai que se retrouver avec des camarades qui vous parlent de leur expérience en Bolivie, en Chili, en Asie, etc., on apprenait plein de trucs. Et puis, ça empêchait des déviations nationalistes. Quand il y a eu l'invasion de la Tchécoslovaquie, par l'armée rouge en Amérique latine, la plupart de l'extrême gauche suivait Castro et approuvait l'invasion. Et nous, on était contre, bien sûr. Et moi, je me rappelle des réunions internationales où des Boliviens, des mineurs, parfois des camarades qui bon, disaient pas les textes, disaient heureusement qu'on est à la 4e internationale parce que ça nous empêche de dire des conneries, quoi. Donc, ça a tout cet apport internationaliste. Après, quand il y a eu des grands mouvements internationaux, comme aujourd'hui, mais ça, c'était sur d'autres thèmes, le mouvement altermondialiste, ben, c'est vrai qu'on se réunissait pour voir comment marchaient ces mouvements, on était dedans, essayer de façon non sectaire, de voir comment on pouvait aider, et on se retrouvait avec des camarades de plein de pays, encore aujourd'hui, qui sont parmi les animateurs ou animatrices, il y en a bien d'autres, hein, mais de ces grands mouvements. Donc je veux dire, à partir du moment où la 4e internationale est sans prétention, si ce n'est sur le plan politique, d'enrichir un programme que plus personne n'a, puisqu'il n'y a plus d'autres internationales, je ne parle pas du PS, ça fait rigoler, mais qu'il n'y a plus d'autres internationales, et qu'il faut être de plus en plus internationaliste vu la mondialisation, c'est un apport. Mais je répète bien, à partir du moment où le but de la 4e internationale, c'est de dire qu'il faut une 5e, et qu'elle pousse à faire ce qu'on a fait en France, au Danemark ou au Portugal, c'est-à-dire d'aider à créer des partis beaucoup plus larges, même s'ils n'adhèrent pas à la 4e internationale, du moment qu'il y a des critères d'anticapitalisme, etc.
Et est-ce que vous avez l'impression que cette Ligue communiste, à l'époque, qui est donc composée beaucoup d'intellectuels, d'étudiants, de cadres, comme vous dites, a du mal aussi à faire le lien encore avec la classe ouvrière ?
Ben moi, justement, ça va être l'apport de la Ligue communiste, puis surtout de la LCR. C'est que là, quand on commence, c'est lié à ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire la crise du PC, le discrédit de plus en plus grand du PC, la participation du PC au gouvernement de la gauche avec le PS en 81, qui va faire hurler plein de militants ouvriers. Et du coup, on a un écho beaucoup plus grand. Je veux dire, bon, moi, je sais, quand je me présentais au présidentiel, je faisais 0 ou 1 ou 1,50. Bon, puis après ça va changer un petit peu, mais l'écho est plus grand. Et là on commence à prendre vraiment des contacts, comme on dit souvent, ce qui nous a permis de survivre dans des périodes parfois difficiles, c'est d'avoir plusieurs centaines, c'est à peu près le cas, de responsables de mouvements sociaux, de mouvements de syndicats, etc., qui étaient là. Et un début d'implantation, je me rappelle, pas tellement dans le privé au départ, c'est dans le public, mais je veux dire d'avoir des dizaines de cheminots, de salariés de l'EDF, et pas seulement des étudiants et des profs, ça commençait à changer vraiment la nature, y compris de se retrouver parfois même à avoir des responsabilités dans des grèves, dans des mouvements sociaux. Ça va commencer avec la Ligue et surtout avec la LCR.
Alors avant d'évoquer la LCR, il faut peut-être revenir sur cette année 73 qui a été une année assez importante dans dans la vie de la LC, de la Ligue communiste. C'est ce moment où il y a des affrontements en juin entre Occident et les gens de la Ligue communiste, des affrontements extrêmement violents qui amènent à la dissolution et qui mettent au jour très fortement, à la fois dans la Ligue communiste et au niveau de la 4e internationale aussi, ces questions de la violence. Qu'est-ce qu'on fait avec cette violence? Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on l'emploie? Comment elle est perçue? Et cette bagarre avec Occident en 73 qui aura quand même un gros retentissement.
Oui, avec deux aspects. À la fois, ça nous a donné pignon sur rue dans la gauche, si je puis dire, et ça a suscité des débats chez nous. Moi, à l'époque, l'idée, l'extrême droite n'avait pas l'audience de masse qu'elle avait aujourd'hui, et nous, on s'en tenait au vieux mot d'ordre du mouvement ouvrier, écraser le fascisme dans l'œuf, et l'idée, c'est d'attaquer tous les meetings d'extrême droite pour les empêcher de se développer, et surtout pour dire aux gens, vous n'allez pas à un meeting normal. Si vous y allez, vous passez entre deux rangées de CRS, ça vous prouve qu'il y a un problème d'aller à un meeting de l'extrême droite. C'est différent de la droite, c'est différent du reste. On voulait vraiment singulariser ça en disant le fascisme, c'est exceptionnel, pas acceptable. Alors il y a eu ce meeting à Paris qui était le premier meeting contre l'immigration de l'Occident. Et on a donc décidé, avec d'autres groupes, enfin, c'était la force principale. Effectivement, ça posait des problèmes. On rappelle, au bureau politique de la Ligue, on discutait un, si on y va, deux, comment, casqué, pas casqué, trois, cocktail Molotov ou pas. Et on savait que la police allait les protéger. C'est la mutualité, c'est un grand truc à Paris. Bon, finalement, il y a eu un vote majoritaire. Moi, j'étais partisan de ça aussi, c'est d'y aller casqué. Et puis, je sais même qu'il y a eu un vote sur le nombre de cocktails Molotov, c'est pas la peine de le cacher. On a dit si la police attaque, face aux fascistes, faut se défendre, etc. Bon, à tel point que moi, on m'a dit de pas rester. Bon, ça pose des problèmes d'ailleurs. On m'a dit, toi, tu seras pas à la manif, il y a beaucoup de dangers, tu vas aller. Il y en avait une autre à Nice à l'époque, et on m'avait envoyé à Nice, où je devais rentrer le lendemain matin. Donc, j'ai pas assisté au fameux affrontement, là. Et effectivement, on est un peu tombé dans un piège, puisque, à l'époque, pour renforcer le syndicat d'extrême droite, le ministre de la police, Marcelin, avait quasiment désarmé les flics. Ils en ont pris plein la tête. Ils ont eu des dizaines de blessés. Et ça a été le lendemain, quand je suis arrivé, c'était la dissolution à cause de ça, d'ordre nouveau, qui était la réaction fasciste, et puis de la Ligue.
Et de nouveau, la prison.
De nouveau la prison. Alors là, l'aspect intéressant, quand je disais le double aspect, c'est qu'on a eu une audience de masse. Et du coup, moi, ce type de violence avec une audience de masse, et je veux dire, on avait déjà des contacts dans les milieux intellectuels, ça c'est lié à notre ligne non sectaire depuis le départ, on connaissait plein de gens, Sartre, Schwartz, compagnie. Mais alors là, quand on a été dissous, je sais, j'ai fait une conférence de presse, je me suis caché chez les intellectuels, etc. Et j'ai fait une conférence de presse dans un café près de l'hôtel de ville. On avait invité toute la gauche, là. Et toute la gauche est venue, syndicale. Je crois même qu'il y avait Edmond Maire, il y avait Charles Hernu pour le PS, etc. Toute la gauche était venue pour nous défendre. Et on leur disait la vérité. Voilà, vous êtes là, on va se faire arrêter après. Mais, je passe les détails, je me suis fait arrêter en rentrant chez moi, suivi par les flics et tout. Mais une fois que je me suis fait arrêter, et envoyé à la santé, il y a eu ce fameux meeting qui était impensable, aujourd'hui c'est naturel, unitaire pour notre libération. Et un meeting au Cirque d'Hiver qui était bourré avec des paraît-il, 1500 personnes dehors, où le PC, Jacques Duclos, tout ça, ont pris la parole pour nous défendre. Défendre des trotskistes, c'est dément. Alors, ils n'ont pas été jusqu'à nous donner la parole. Parce que les gens disaient, donnez la parole. Bon, quand même pas. Mais le fait qu'ils ont fait ça... Et moi, je sais qu'avant d'être arrêté, en quittant la conférence de presse, Hernu m'a emmené dans sa voiture, et il m'a dit, Mitterrand, tout ça, on vous attend, Cité Malesherbes. C'était à l'époque le local du PS, donc je suis arrivé à Cité Malesherbes. Et là aussi, j'ai appris des choses. Moi, j'apprends tout le temps, ça qui est fantastique. C'est quand vous êtes avec quelqu'un qui n'a rien à dire, mais qui a toutes les télés et les radios, il faut faire des gestes. Et Mitterrand, qui avait absolument rien à me dire, si ce n'est, si vous voulez dormir là, vous pouvez dormir là, Crévin, on vous accueille. J'ai dit, écoutez, j'habite à côté, faire arrêter à côté, pas vous embêter là. Mais non, sinon on vous accueille. Mais il n'avait rien d'autre à me dire, parce qu'il était coincé comme tout. Et il y avait les télés, donc il faisait plein de gestes de la main. Et en fait, il montrait les peintures et l'âge de l'architecture des maisons qu'on voyait. Il montrait ça, et les gens pensent qu'on avait des grands débats politiques et théoriques de fond. En fait, c'était un problème d'architecture de la cité Malesherbes, que je connais bien maintenant.
Donc 73, après ces affrontements, c'est la création donc de la LCR, donc qui est un parti qui, jusqu'à il y a peu, était encore un parti en activité. Quel était le but, quel était l'objectif de la LCR ?
Donc c'est un parti internationaliste anticapitaliste dont le but n'est pas de lui faire la révolution au sens révolutionner les choses. Hein. Je répète, pour moi, la révolution, c'est pas pendre à chaque arbre un CRS, un curé, un patron, un CRS, un curé. D'abord, il n'y aurait pas assez d'arbres. Et en plus, je pense que c'est inutile. Mais révolutionner au sens changer complètement le fonctionnement de la société, c'est-à-dire travailler pour une société qui fonctionne pour la satisfaction des besoins démocratiquement décidés par les gens et pas pour la concurrence et le profit, en gros. Donc c'est ça, pour moi, la révolution. Mais donc, c'est créer une oration révolutionnaire et qui arrive, dans les mouvements sociaux, à pousser vers ce but qui peut-être sera atteint un jour. Il suffit de voir la situation en Grèce.
Alors, la LCR, Alain Krivine, est devenue... Alors, est-ce qu'elle est devenue le NPA ou est-ce que les choses sont plus compliquées? Est-ce que le NPA a encore un lien avec le trotskisme, le nouveau parti anticapitaliste?
Un lien. Quand on a créé le NPA, il ne faut pas le cacher, c'est la LCR a aidé à créer le NPA. Mais toujours avec n'importe quel nouvel adhérent au NPA, on lui disait le but, c'est de créer un parti plus large. On n'a jamais fait croire que c'était nous qui allons devenir grossir comme le bœuf, la grenouille. Bon, non, on a toujours dit, il y aura un jour des fusions, des regroupements, des machins. On n'a pas la prétention que tous les anticapitalistes vont passer par le trotskisme, qui implique une analyse de l'histoire, de l'URSS, de bon, ça. On a dit, maintenant, il faut construire un parti, quand les conditions le permettront. Quand on a créé la LCR, on ne pouvait pas faire plus, tellement on était encore isolés. Mais quand on a décidé la création du NPA, et je crois qu'on ne s'est pas trop trompé, après il y a des problèmes de rythme, on s'est dit, il y a le monde est en bouleversement, ébullition, plein de gens vont devenir anticapitalistes, on n'apparaîtra plus comme des zombies, comme on l'a été pendant des années. Moi, je sais, je faisais des meetings, on est anticapitaliste, les gens disaient, j'avais pas encore les cheveux blancs, mais presque, les gens disaient, il est cinglé, quoi. C'est sympa, mais l'anticapitalisme, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est tellement évident, hein. Je ne vais pas dire que Sarkozy est anticapitaliste, mais enfin, il pense qu'il faut réformer quand même des trucs. Donc, je veux dire, la période, on s'est dit, il y a une période là où on ne va pas regarder dans le rétroviseur, on ne va pas demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent du stalinisme, de l'URSS, de quelle nature c'était, etc. Ça, c'est des débats, on ne les nie pas, on n'est pas poujadiste, hein. Les débats historiques sont importants, mais il suffit d'être d'accord sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quelle est la situation, qu'est-ce qu'on fait demain. Et là, on a fixé des critères, hein. On ne peut pas rénover le capitalisme, il faut le renverser, etc. Et on a dit, à partir de voilà, indépendamment de l'histoire des gens, la période est mûre pour ouvrir le parti et faire un autre parti. Et du coup, le fait que cet autre parti n'est pas la quatrième internationale, ce n'est pas simplement un truc formel. Hein. C'est parce qu'on a des gens qui sont au NPA. Alors, il y a des départs et tout, on en reparlera, mais c'est qu'il y a des gens qui sont venus du PC, du mouvement altermondialiste, qui n'ont rien à voir avec le trotskisme, mais qui s'en foutent d'ailleurs, mais qui sont anticapitalistes, du mouvement féministe, du PS, certains, des Verts, enfin bon, des libertaires. Donc qui n'ont pas du tout notre tradition, et qui ont absolument leur place dans une relation anticapitaliste internationale. Ça, c'était le but. Au début, on l'a réussi. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Mais au début, on l'a réussi, puisque quand on a aidé à créer, à la Ligue, on devait être moins de 3000, et on s'est retrouvé à 9000 au congrès de fondation. Donc je veux dire, il y a eu un ballon d'oxygène fantastique pour une organisation anticapitaliste vraiment de nature différente, pas fondamentalement différente, il y a encore 2 à 3 000 trotskistes là-dedans, mais je veux dire d'une oration révolutionnaire qui ne se réclame pas du trotskisme au niveau de son histoire, au niveau... Et ça, je trouve que c'est un modèle, y compris à suivre dans d'autres pays.
Merci Alain Krivine. À voix nue, Perrine Kervan s'entretient avec Alain Krivine, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehors, chargé de réalisation Dominique Costa. Vous pouvez écouter comme toujours ou télécharger cette émission sur le site de France Culture, www.franceculture.com. Demain, dernier volet de notre série d'entretiens, la famille des politiques. Mmh.